Merci beaucoup. J'ai peut-être une question préalable à poser, c'est quel est le degré de connaissance de l'auditoire sur Hayek. Je vois que l'auditoire est assez jeune, donc une des consolations qu'on a de vieillir, c'est qu'on a lu plus de livres. Et c'est pas que les jeunes soient censés n'en avoir lu aucun, selon que vous aurez une préconnaissance certaine de Hayek ou pas, je procéderai un peu différemment. Alors, par exemple, qui a lu Droit, législation et liberté? Non, je ne parle pas de professeur. c'est donc quand même une minorité, si j'ai bien vu. Hein. Et qui a lu d'autres œuvres de Hayek? Alors, toujours le même. Donc, merci. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu, enfin, en tout cas, de vous donner envie de compléter ce contact, parce que, toujours dans l'optique de ce séminaire, si l'optique du séminaire, c'est de réfléchir sur les normes, et surtout à un gouvernement par les normes, hein, il est certain que Hayek est un de ceux qui a apporté le plus de... d'outils théoriques pour comprendre ce problème. Et en effet, c'est un précepte hayekien que non seulement on peut gouverner par les normes, mais on doit ne gouverner que par les normes. Quand quelque chose va mal dans la société, on ne doit pas régler les problèmes directement, au coup par coup, par un interventionnisme consistant en général à prendre de l'argent aux uns pour le donner aux autres, mais on doit chercher à modifier les règles qui ont donné cet état de choses que l'on juge à tort ou à raison négatif. Si on le juge négatif, il faut le changer, mais il faut le changer en changeant les règles du jeu, en modifiant les règles du jeu ou en faisant évoluer les règles du jeu. Donc, de ce point de vue-là, il est tout à fait dans la ligne de votre séminaire. Alors, je rappellerai simplement des choses, encore une fois, qui pourraient être connues, mais comme elles ne le sont pas, je vais les introduire. La réflexion alors d'abord, il faut dire que Hayek est un des grands philosophes, à mon avis, du XXe siècle, il n'avait pas cherché à l'être, il n'a pas fait d'études de philosophie, par exemple. Naturellement, il a fait beaucoup de lectures en philosophie, mais en fait, il a hésité dans son jeune âge. Il est né en 1899. Et alors, je vais encore remonter plus haut. Je vais vous dire quelques mots de Hayek, parce que finalement, il n'est même pas sûr que vous sachiez exactement qui c'est. C'est un Autrichien. Petit détail anecdotique, son vrai nom c'est Friedrich August von Hayek, avec un von qui correspond à un titre de noblesse, de noblesse non titrée en fait, hein, en Autriche et dans les pays germaniques, qui correspond un peu aux sœurs en Angleterre. Hein. Et alors c'est pour ça dans les pays germanophones, on dit toujours Friedrich von Hayek. Et puis comme il a passé toute sa vie, comme je vais vous le dire, en Angleterre, ou dans les pays anglo-saxons, ou du moins la partie la plus productive de sa vie, dans les pays anglo-saxons, lui-même a décidé de signer ses livres Hayek. Alors, la coutume en est restée dans les pays anglo-saxons, et alors pour les francophones, c'est une question indécidable. Alors les gens en général qui lui veulent du mal l'appellent von Hayek, pour dire c'est un réactionnaire, un méchant aristocrate. Et moi-même, je l'ai appelé Hayek dans mes livres et mes articles, mais c'est parce que je me fiais à ce que Hayek lui-même à la signature même de Hayek, et à la réflexion, il serait peut-être préférable de dire von Hayek, puisque c'est son vrai nom. Hein. Bien, en tout cas, il est autrichien, et il avait des parents, un père médecin, mais qui a fait des cours aussi à l'université, parce qu'il était passionné de botanique, et son père aurait voulu devenir professeur d'université, et c'est le fils qui a un peu réalisé le rêve du père. Mais je cite cet aspect parce que c'est très important. Le jeune Hayek a grandi dans une ambiance, il y avait aussi des cousins qui étaient professeurs d'université en biologie, et en chimie. Enfin, la famille était une famille où il y avait il y avait plusieurs savants. Et la jeunesse de Hayek a été versée un peu dans la passion pour la biologie, pour les sciences de la vie. Et quand il est arrivé à l'âge de choisir des études, il a hésité entre faire de la biologie et faire de l'économie. Et il a fini par opter pour l'économie, mais en gardant par-devers lui des préoccupations biologiques. Et d'ailleurs, quand il était étudiant, il a écrit le brouillon d'un ouvrage qu'il développera entièrement beaucoup plus tard, c'est-à-dire, oui, 35 ans plus tard, et qui deviendra The Sensory Order, qui d'ailleurs a été traduit récemment en français. Mais je n'ai pas vu la traduction, je ne sais pas si elle est bonne. Et en tout cas, là-dessus, il commence ses études d'économie, et à Vienne, la coutume veut qu'on ne se spécialise pas trop tôt après l'abitur, ou je ne sais pas s'ils en ont un examen, enfin, l'équivalent du baccalauréat. Et on ne pouvait pas faire d'économie sans faire du droit. Donc il a quand même fait aussi des études de droit. Et je ne veux pas vous raconter toute sa carrière, mais enfin, après, il a été l'élève de von Mises, au séminaire de qui il a assisté. Donc par von Mises, il a été au contact de toute l'école autrichienne d'économie. Et von Mises, ayant créé un institut de recherche économique, y a fait nommer Hayek, c'était donc son premier poste. Et cela a conduit Hayek à réfléchir sur les questions monétaires. D'ailleurs, il a passé un an aux États-Unis, bon, je ne rentre pas dans les détails, et il a écrit des articles brillants sur le plan de la théorie de la monnaie qui lui ont valu d'être invité à faire des conférences à Londres. Et il a été si brillant à Londres qu'on l'y a nommé professeur. À cette époque, Londres était un peu le centre de la science économique. Et Hayek a été donc nommé à la London School of Economics, qui pourtant était un lieu où il y avait surtout des socialistes. Les plus célèbres des économistes socialistes anglais étaient dans cette école. Mais elle était suffisamment libérale pour admettre qu'il y ait quelques gens de la tendance inverse. Et il a enseigné là jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, date à laquelle il est allé en Amérique, à l'Université de Chicago, à la fois pour des raisons personnelles, familiales, à cette époque où il a divorcé, donc il voulait changer de lieu, et surtout parce que au lendemain de la guerre en Angleterre, c'était surtout les idées keynésiennes qui avaient le vent en poupe. Et Keynes et Hayek étaient d'ailleurs étroitement connus, ils étaient même amis en fait, d'autant plus que pendant la guerre, la London School of Economics avait été déplacée à Cambridge où Keynes était professeur, et donc ils avaient des rapports étroits, des rapports personnels très étroits et des rapports amicaux, mais totalement opposés évidemment sur le plan théorique. Et comme les idées keynésiennes l'emportaient, dominaient la scène, c'était aussi une des raisons pour que Hayek choisisse de répondre à l'invitation qui lui était faite d'aller à Chicago. Et il a poursuivi à ce moment-là sa carrière en profitant d'une grande liberté qu'il avait à Chicago, parce qu'il n'était pas professeur d'économie justement, mais il avait une sorte de poste de chercheur sans aucune contrainte. Et c'est ainsi que j'abrège sur cette carrière de Hayek. C'est quand même pour vous montrer un peu le caractère. Vous avez bien voulu dire que j'avais un profil, comment vous avez dit, atypique, mais j'ai pas du tout un profil atypique. Moi, je suis un philosophe, et mon seul atypisme, c'est que je ne suis pas employé par ce système totalitaire qu'est l'éducation nationale française. Et que je suis employé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Mais c'est mon seul atypisme, car pour le reste, il est normal que les philosophes ne traitent pas toute leur vie d'une seule question. Alors que Hayek, lui, c'est un vrai. D'abord, lui, c'est un génie, et donc les génies, en effet, sont toujours atypiques. Et son atypisme à lui consiste dans ce que, alors qu'il était économiste et qu'il voulait comprendre l'économie, il a compris que les économistes n'y comprenaient rien, d'une certaine façon. C'est toujours le problème de la science. La science avance, pour reprendre la fameuse distinction de Thomas Kuhn, dans un certain paradigme. Et la science qui se fait dans un paradigme, Kuhn l'appelle la science normale. Et puis vient un moment où ce paradigme s'épuise, parce qu'il y a des phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer dans le cadre de ce paradigme, et il faut remettre le cadre en cause. À ce moment-là, surviennent ce que Kuhn appelle les révolutions scientifiques. Et donc les économistes, la science économique a été créée par des gens qui n'étaient pas économistes, par définition, puisque on prenait Adam Smith ou Turgot, ou à plus forte raison, les Mariana et autres néo-scolastiques espagnols qui n'étaient pas économistes, puisqu'ils étaient théologiens moraux, hein, et qu'ils écrivaient en latin. Donc ils n'étaient pas économistes écrivant en anglais, ils étaient théologiens moraux écrivant en latin. C'est pour ça que les historiens de l'économie, quand ils cherchent à raconter les débuts de l'économie, ne vont jamais jusqu'à la néo-scolastique espagnole, parce qu'ils n'ont pas l'idée de chercher. D'abord, ils ne connaissent pas le latin, et en plus, ils n'ont pas l'idée de chercher la source de la science économique dans des textes écrits en latin. Alors, je referme la parenthèse. À partir du moment où Hayek essayait de comprendre comment fonctionne le marché, il s'est intéressé au fait que le marché, c'était essentiellement un réseau d'échanges, hein, ce qu'il appellera une catalaxie. Hein. Et par conséquent, on ne peut comprendre l'économie de marché que si on prend conscience des conditions dans lesquelles se passe l'échange. Et l'échange se produit selon certaines règles, règles de comportement des gens vis-à-vis des autres, ce que Hayek appelle les règles de juste conduite. Et ces règles de juste conduite, on va y revenir après, sont une catégorie très générale dans laquelle il y a deux sous-catégories qui sont la morale et le droit. Mais la morale et le droit appartiennent toutes deux à un même genre, qui est l'ensemble des règles de juste conduite. La différence entre les deux étant que les règles, la sanction des règles juridiques, les règles juridiques sont celles dont la sanction est assurée par l'État, parce que leur respect est une condition tellement vitale pour la société qu'il faut assurer leur respect, et on le fait en punissant les transgresseurs de façon redoutable et telle que ça dissuade les autres de faire les mêmes transgressions. Alors que les règles morales, qui à certains égards sont peut-être plus importantes parce qu'elles sont plus compréhensibles, la sanction en est laissée à la louange et au blâme, hein, de la société. Mais à part cette distinction qui est en effet très importante, tous deux, la morale et le droit, sont un ensemble de règles ou de normes, pour reprendre ce terme, bien que on va voir tout à l'heure aussi petite distinction de vocabulaire il faut faire entre règles, normes, lois, hein. Mais ce sont en tout cas des réalités d'une même famille. Donc Hayek, pour comprendre comment fonctionne l'économie, a réfléchi sur ces règles. Alors du coup, il s'est intéressé au droit. Alors ça tombait bien puisqu'il avait fait des études de droit, donc il n'était pas entièrement... il a pris conscience de ce que droit et économie, c'était deux problèmes étroitement corrélés. Et le problème, encore une fois, c'est que après que l'économie ait été créée par des gens qui n'étaient pas économistes, le prestige acquis et puis les œuvres faites ont incité à créer des chaires d'économie dans les universités, et du coup, des étudiants ont fait leur classe dans l'économie, mais alors uniquement avec les paradigmes de l'économie. Et du coup, ils sont très souvent incapables de prendre conscience de ce que je viens de dire, à savoir qu'ils ne peuvent aller plus loin pour connaître l'économie qu'en réfléchissant aussi sur le droit. Donc Hayek a fait cette démarche, et le droit lui-même, il évolue d'une certaine façon. Si vous avez un État autoritaire, une monarchie absolue, eh bien la loi a été dictée par le roi. Si vous avez une démocratie, la loi est votée par un parlement. Alors, on ne peut... Et puis, par ailleurs, ça peut se faire dans le cadre d'une constitution qui limite le pouvoir du législateur, donc une constitution de type libéral, ou bien dans le cadre d'une constitution où il n'y a pas de telles limites. Alors, s'il y a des déclarations des droits de l'homme et s'il y a un contrôle de constitutionnalité des lois, la production de normes juridiques va être différente de ce qui se passe dans le cas contraire. Voilà pourquoi, et alors ce qui est très important évidemment, si on réfléchit à l'économie de marché, c'est que les États sont tentés évidemment d'intervenir dans le marché, en premier lieu d'ailleurs pour voler le peuple avec les impôts, hein, c'est-à-dire au-delà des besoins collectifs. Hein, et deuxièmement, guidé par des théories et en plus sollicité par les victimes de l'économie, ils peuvent être tentés d'intervenir directement dans le jeu économique. Et à partir de ce moment-là, le fait que l'on puisse facilement changer les normes ou qu'on soit bridé dans le changement des normes par des mécanismes constitutionnels contraignants, est très important. Et voilà pourquoi Hayek, après avoir étudié le droit, a dû étudier la science politique, c'est-à-dire la science politique, les constitutions politiques, ce qui n'est pas exactement la même chose que d'étudier le droit. Certains d'entre vous doivent bien le savoir ici. Et enfin... c'est pas la dernière chose, c'est l'avant-dernière chose. Les institutions politiques elles-mêmes évoluent avec l'histoire et avec les grands événements de l'histoire, les révolutions, les changements de régime, les changements de constitution. Et ces grandes évolutions se font elles-mêmes en fonction de certaines idéologies politiques ou de certaines idées politiques. Alors. Du coup, on ne peut comprendre en profondeur la nature des institutions politiques que si on connaît aussi l'histoire des idées politiques, ce qui n'est pas général. Hein. Il y a beaucoup de gens qui enseignent toute leur vie le droit constitutionnel et qui ne connaissent rien à l'histoire des idées politiques. Non, mais je ne vise personne, et surtout pas ici, naturellement, mais j'en ai rencontré dans mon pays. Et Hayek... À son tour, s'est plongé dans cette histoire avec un. C'est un des hommes les plus intelligents du XXe siècle, avec une capacité de travail tout à fait exceptionnelle, et profitant notamment de ces 15 ans de liberté qu'il a eu à Chicago, il a approfondi toute l'histoire des idées politiques, et ses contributions originales en termes d'histoire des idées politiques sont considérables. Hein, ses articles sur Hume, sur Mandeville, sur la rule of law, sur l'histoire de la rule of law en Angleterre, sur l'histoire de la première révolution anglaise, hein, enfin, pas l'histoire de la révolution anglaise au sens événementiel, mais sur l'histoire des idées pendant la première révolution anglaise et sur l'invention par les Anglais de toute une série de concepts qui nous sont familiers aujourd'hui, mais qu'ils ont inventés, comme la séparation des pouvoirs, qui n'a pas été inventée par Montesquieu, contrairement à ce que racontent des illettrés en France. Hein, Montesquieu n'a pas inventé cette notion, et en plus il n'y a rien compris. Hein. Donc Montesquieu, c'était un homme de salon, hein, c'était une sorte de Jacques Attali du XVIIIe siècle. Pourquoi riez-vous ? Donc Hayek, si vous voulez, a constamment dû changer de plan, hein, mais pas pour le plaisir par un plaisir de curiosité, mais toujours dans le but d'expliquer l'économie de marché. Donc cette démarche consistant à prendre en vue les conditions, donc à remettre en cause le cadre, et puis remettre en cause le cadre du cadre. Et le cadre du cadre du cadre. Cette démarche est typiquement philosophique. On peut définir la philosophie de deux façons. On peut la définir ou bien substantiellement par son objet. À ce moment-là, on dira que la philosophie, c'est la science de l'être en tant qu'être. Ou bien on peut la définir par sa démarche, hein, par sa méthodologie, si vous voulez. Et à ce moment-là, le philosophe, c'est celui qui est capable d'avoir un regard critique sur les paradigmes dominants. Et Hayek, en ce sens-là, est un philosophe. Il est devenu un philosophe, ou exactement, on peut constater à la fin de sa vie qu'il aura été un philosophe, mais à aucun moment il n'a cherché à l'être. Hein. Et je pense qu'il sera d'ailleurs aussi, ses contributions proprement économiques resteront, puisque c'est en fonction de ses contributions qu'il a reçu en 1974 le prix Nobel d'économie. Bien, alors j'en ai terminé avec Hayek. J'avais oublié le dernier élément. C'est l'élément... de biologie dont je parlais au départ. Hayek s'est intéressé quand il avait 20 ans, je l'ai dit. Enfin, il a écrit un long manuscrit sur le fonctionnement, enfin sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la psychologie cognitive. Alors le vocabulaire n'était pas encore fixé à cette époque, mais sur, au fond, sur la théorie de la perception, hein, la théorie et la théorie de l'intelligence. Que se passe-t-il quand on perçoit les choses et qu'on réfléchit sur elles, et comment fonctionne le psychisme humain, et singulièrement avec quand même cette idée que l'explication ultime du fonctionnement du psychisme humain doit être dans le cerveau. Et alors, ceci dit, je vous rassure tout de suite, Hayek n'est pas du tout un réductionniste. Il ne pense pas à expliquer l'esprit par l'électron, hein, mais il a posé en thèse que justement, pour des raisons de méthode qu'on peut rapporter au fameux théorème de Gödel, le cerveau ne peut pas se comprendre lui-même. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de barrière épistémologique au fait que l'homme puisse. Enfin, il y a une barrière épistémologique qui empêche que l'homme explicite intégralement le fonctionnement du cerveau, puisqu'il pourrait le faire qu'avec son propre cerveau. Il y a là donc une frontière. Que d'ailleurs les cognitivistes essayent de franchir quand même, hein, par toutes sortes de biais. Hein. Mais Hayek ne prétendra jamais qu'on peut rendre compte des phénomènes intellectuels ou idéaux en les rapportant à des phénomènes physiologiques qui les expliqueraient intégralement. Et par conséquent, on doit étudier les deux phénomènes en parallèle. Et les parallèles ne se recoupent jamais entièrement. Mais il n'en demeure pas moins que cette réflexion de psychologie cognitive de Hayek s'est quand même basée sur cette idée que le cerveau devait avoir des structures telles, si vous voulez, qu'elles permettent un certain type de connectivité au niveau des idées. Et ceci, Hayek a eu l'occasion d'en parler longuement avec Popper, qui était son collègue à la London School of Economics, et avec lequel il est resté en contact ensuite jusqu'à la fin de leur vie à tous les deux. Hein. Et vous savez que Popper a écrit un livre sur le cerveau avec Eccles, et Hayek avait suivi ça de très près. Alors c'est encore un dernier terrain, après tous ceux que j'ai dit, où Hayek a fait des recherches et œuvre créative, puisqu'il a écrit ce livre magnifique qui s'appelle The Sensory Order, qui a été traduit en français donc sous le titre L'ordre sensoriel. Et ceci va également jouer un rôle dans sa compréhension du phénomène des normes dont je vais parler, puisque la grande idée de Hayek, si vous voulez, c'est d'essayer de comprendre le marché, enfin l'économie, disons même pas l'économie de marché, disons l'économie dans une grande société, hein, par opposition à l'économie dans un petit groupe tribal. Hein. Et pour comprendre l'économie, en bonne individualiste méthodologique, il a compris qu'il devait expliquer la raison du comportement de chaque agent économique. Alors, dans la raison du comportement de chaque agent économique, il y a un environnement juridique, il y a un environnement de marché, c'est-à-dire avec les prix, les prix de marché pour acheter les facteurs de production ou pour vendre des produits. Mais il y a aussi un élément proprement psychologique, de psychologie cognitive. Comment un agent économique arrive à déterminer des plans d'action, de produire telle ou telle chose, ou de vendre sa force de travail à tel ou tel employeur. Et pour répondre à cette question, il faut avoir une certaine image du psychisme. Alors, c'est compte tenu de tous ces éléments ou de tous ces registres, si vous voulez, que on comprend la théorie, la théorie de Hayek, et en particulier sur ce problème qui vous intéresse, qui est l'origine, enfin qui est les normes, et en particulier aussi l'origine des normes. Alors, le temps passe déjà, donc je vais même pas expliquer vraiment, mais citer les éléments qui permettent qui conduisent à cette théorie de l'origine des normes. L'idée, c'est que la première idée, enfin le point de départ, hein, c'est que le monde social est trop complexe. que le monde social est complexe. Hein, vous avez déjà et complexe ne voulant pas dire compliqué, hein, parce que le compliqué, le compliqué est fabriqué par des choses simples. Alors, par exemple, le plan de la fusée Ariane est très compliqué, mais il peut être ramené à des choses simples. Et j'imagine que ce plan existe quelque part. Enfin, ceci dit, c'est pas sûr, parce que la fusée Ariane, comme tous les objets technologiques très, très, justement très, très compliqués, comportent des composants qui sont d'ailleurs pas fabriqués par la société Ariane. Et peut-être que les composants eux-mêmes intègrent des technologies que ne possèdent pas les gens qui font le montage de la fusée Ariane. Enfin, toujours est-il que vous avez un plan extrêmement compliqué, j'imagine, hein, mais on peut le ramener au simple, au sens qu'il y a des ingénieurs qui connaissent chacun des éléments. Alors, l'idée de complexité, c'est tout à fait différent. Complexe veut dire, désigne un phénomène que l'on ne peut pas connaître intégralement, par principe. Hein. Et la société, et en particulier la société économique, est un phénomène de cette nature. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la connaître par principe? Parce que, tout simplement, si, à supposer que l'on puisse rassembler en un point central un Gosplan, enfin le type soviétique, hein, à imaginer, vision infernale, qu'il existe un gouvernement totalitaire mondial et que ce gouvernement veuille diriger l'économie, il faudrait qu'il puisse centraliser toutes les informations pertinentes et ensuite les computer, c'est-à-dire les comparer, enfin voir s'il y a des ressources qui répondent aux besoins, et à l'échelle de toute la planète, évidemment, et à supposer qu'il existe des ordinateurs tellement puissants qu'ils le puissent, il faudrait ensuite qu'ils puissent renvoyer des ordres, et que ces ordres soient exécutés. Donc ça fait beaucoup de si. Hein, et en fait, chacun de ces si est une impossibilité, hein, parce qu'il ne peut même pas rassembler toute l'information. Il ne peut pas la computer en temps réel et il ne peut pas la retransmettre sur le terrain en temps réel non plus. Et il est encore moins certain que ces instructions puissent être obéies s'il en donne, parce qu'aucun pouvoir, même totalitaire, n'est totalement totalitaire, si j'ose dire. Mais tout cela n'est rien par rapport à l'autre frontière, qui est que s'il était possible que toute l'information soit réunie, par le fait même, l'information deviendrait fausse. Car les plans des agents économiques ont pour rationalité de présupposer que, justement, personne ne sait ce qu'ils veulent faire. À quoi ça sert de lancer une production si on sait que tous les concurrents seront au courant? Donc le simple fait que l'information serait rassemblée la rendrait obsolète. Bien, enfin, je n'insiste pas sur cet argument. En tout cas, vous avez une situation de complexité. Et la question est donc que l'économie ne peut pas être organisée par un Big Brother, par un Gosplan. Elle ne le peut pas. Épistémologiquement, c'est impossible. Et on peut ajouter d'ailleurs que quand ça a été essayé, ça a donné les résultats les plus déplorables. Donc, question, comment se fait-il qu'il y ait quand même un ordre économique? C'est forcément que l'économie se met en ordre. Vous me direz que cet ordre n'est pas parfait, mais il y a tout de même un ordre économique, puisque nous sommes là dans une pièce chauffée avec de la lumière, vous êtes tous habillés, vous avez une montre, des lunettes, etc. Et je suppose que vous allez manger aujourd'hui, que vous mangerez ce soir. Et donc, ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'un Gosplan aurait dit à chacun ce qu'il devait faire et aurait dit aux gens qui vous ont fourni l'électricité ou la lumière de le faire à tel moment. Ça ne fonctionne pas non plus parce que tous les producteurs se seraient concertés par une espèce de grande AG mondiale où les 6 milliards d'êtres humains se discuteraient et puis se mettraient d'accord pour savoir qui va faire quoi, hein, qui va faire des vêtements, qui va tisser des tissus, etc. Donc ce n'est ni... Pour l'instant, l'économie qui existe, si imparfaite qu'elle soit, est productive. Or, elle n'est pas l'exécution d'un plan central et elle n'est pas non plus le résultat d'une concertation. Donc comment se fait-il que ce que certains font, ça soit justement ce dont les autres ont besoin pour faire ce qu'ils ont prévu de faire? ou si vous voulez, on peut dire les choses différemment, pour n'importe quel projet que nous avons, et en particulier un projet de production, nous avons besoin de certains facteurs de production. Donc, nous voulons faire quelque chose, mais nous ne pouvons le faire que si nous avons certains moyens. Je veux mettre une étagère de livres chez moi, il faut que j'ai des planches et des clous, voilà, pour les fixer sur le mur. Ou alors, je veux faire un cours, une séance de séminaire à l'ULB, j'ai besoin que le Thalys marche. Et si je n'ai pas ce moyen, mon but économique ne sera pas atteint. Et à supposer que ce cours serve à quelque chose, et si vous-même, vous venez le suivre dans le but de faire je ne sais pas quoi d'ailleurs, terminer vos études de droit, vous ne pourrez pas atteindre votre but si je n'ai pas pu atteindre le mien, à savoir vous faire ce cours. Et je n'aurais pas pu atteindre le mien si le TGV n'a pas marché, et pas seulement le TGV, mais le taxi, etc. Donc si vous voulez, il y a un grand mystère dans la société, c'est que plein de gens ne peuvent atteindre leur but que parce que d'autres se sont donné pour but de leur fournir les moyens qui leur permettent d'atteindre leur but. Mais ces gens eux-mêmes n'ont pu le faire que parce qu'ils ont eu des moyens. Donc pour qu'ils puissent atteindre leur but, qui est de me donner des moyens pour atteindre mes buts, il faut que eux-mêmes, il faut que des tiers se soient donnés pour but de leur fournir les moyens qui leur permettent d'atteindre ces buts. Alors, tout ça est merveilleusement expliqué par Hayek, et ça pose un problème absolument fascinant. Comment cette coordination peut-elle être faite dès lors qu'elle n'est pas faite par, je répète, par une planification centrale, ni par une coordination? Ça veut dire que, d'une certaine façon, les gens qui se donnent des buts économiques, par exemple, je sais pas, de vendre des frites et des moules dans un restaurant de Bruxelles, d'une certaine façon, il y a des gens qui vont venir les manger, et ça va leur servir de moyen pour mener leur vie, et toutes ces actions vont se coordonner, et alors parfois elles se coordonnent pas complètement, parce que vous pouvez avoir un restaurant qui ouvre et puis il n'y a aucun client qui vient, hein. Mais d'une manière générale, ça va marcher, hein. Donc la question est de savoir comment quelqu'un qui n'a pas de plan d'ensemble de l'organigramme des interactions économiques et sociales peut se mettre quelque part dans la machine de façon adéquate, alors qu'il n'a pas la connaissance de l'ensemble de la machine. Donc, là, il y a un mystère tout à fait. Et si vous voulez, la bonne démarche en science, en manière générale, c'est de poser les bonnes questions, parce que c'est de mettre en évidence. C'est encore mieux de donner les réponses, mais c'est déjà évident. La plus grande partie du travail est fait quand on a posé les bonnes questions. Et la bonne question, c'est comment. Il faut s'étonner de cette chose qui, par ailleurs, nous paraît tout à fait naturelle, puisque nous vivons dedans, que nous ayons, si nous avons envie de fumer une cigarette, nous allons aller au bureau de tabac et acheter un paquet de cigarettes. Nous n'étonnons pas que ce paquet de cigarettes soit là. Hein. Mais c'est très étonnant, parce qu'il faut beaucoup de choses pour qu'il soit là. Hein. Je ne parle pas en plus de l'interdiction du tabac, autre chose, j'aurais peut-être dû prendre un autre exemple. Mais il faut que ce monsieur ait été livré, il faut que le constructeur automobile qui a fait le camion qui l'a livré les fournit, etc., etc. Vous savez, la division du travail, ça donne lieu à une très célèbre page d'Adam Smith, hein, comment une aiguille peut être produite. Hein. Le simple fait d'une aiguille, ça suppose qu'un très grand nombre de personnes aient fait un très grand nombre de choses. Et la question, c'est comment ont-elles été coordonnées? Et la réponse, donc je franchis par avance, par anticipation, une étape, la réponse, en ce qui concerne l'économie au sens propre de Hayek, c'est que cette coordination se fait par le droit et par les prix. Le droit permet de ce qu'il appelle en anglais « the matching of expectations », l'adaptation mutuelle des anticipations, Si j'ai une propriété, je m'attends à ce que vous ne me la voliez pas, et je m'attends à ce que je puisse la vendre. Et si j'ai une certaine propriété et que je veux acquérir un autre bien, je m'attends à ce que je puisse la vendre et avec l'argent acheter l'autre bien. Donc ça suppose une série de règles de droit, et ça suppose aussi que tout le monde va observer, enfin, connaît ces mêmes règles du droit et va les observer. Et ne va pas se comporter, enfin, et va se comporter, et que tout le monde va se comporter d'une certaine façon, selon un certain type de comportement, et va exclure un certain type de comportement, comme de me tuer, ou de me voler, ou de me mentir. Et ça, donc, si vous voulez, le droit dit ce qu'on ne doit pas faire si on ne veut pas bloquer la coopération avec autrui. Et l'essentiel du droit pour Hayek, il revient dans la discussion si vous voulez, c'est que le droit fixe les frontières des propriétés mutuelles. Car si ces frontières sont bien fixées, jamais, quand quelqu'un décide de faire une certaine chose avec sa propriété, il ne risque de court-circuiter quelqu'un d'autre, hein, de rentrer en conflit avec quelqu'un d'autre. Mais vous pourriez avoir des gens qui respectent parfaitement le droit, mais qui meurent de faim, parce que chacun resterait chez lui. Dormir sous son arbre, si vous voulez. La richesse d'une société tient à ce que les gens interagissent et encore une fois, se fournissent mutuellement les moyens qui leur permettent d'atteindre leur fin. Donc, il faut un autre guide, et qui est le système des prix, et les prix, si vous voulez, disent positivement ce qu'il faut faire pour répondre aux besoins d'autrui, et d'ailleurs aussi aux siens, puisqu'on va essayer de faire un maximum de profit, et donc on va essayer de. Quand on peut produire un produit qui se vend à un certain prix avec plusieurs facteurs de production, on va choisir les facteurs de production les moins chers pour maximiser son profit et on va essayer de vendre le plus cher que l'on peut. Mais justement, cela a un effet macroéconomique parce que si vous délaissez ce qui coûte le plus cher comme facteur de production pour prendre ce qui coûte le moins cher, utiliser ce qui est le moins demandé par d'autres, puisque ce qui fait que c'est pas cher, c'est que c'est moins demandé. Hein. Donc en maximisant votre profit, vous maximisez aussi le profit collectif, puisque vous utilisez quelque chose qui est moins demandé que ce que vous avez refusé d'utiliser. Et en même temps, pour maximiser votre profit, vous allez fabriquer de préférence ce qui se vend le plus cher. Mais ce qui se vend le plus cher, c'est ce qui est le plus rare et le plus demandé. Donc en le fournissant, vous rendez un service social, puisque vous diminuez la rareté de cette chose. Alors, ce n'est pas mon propos de poursuivre là-dessus, c'est la théorie du marché de Hayek qui fonctionne avec le droit et les prix. Mais du coup, ça nous permet maintenant de concentrer notre réflexion sur les normes de droit. Comment émerge-t-elle? Alors, là, il y a un texte. Enfin, d'abord, avant d'aborder ce point qui sera le dernier, hein, de ma présentation, je dois bien préciser une chose. Hein, si vous voulez, Hayek considère que la question du droit, j'imagine que c'est quand même le droit qui vous intéresse en première et dernière instance, hein, ici, ne se comprend que dans une, encore une fois, que dans une perspective plus large, qui est celle des normes. Alors, parce que je sais bien que le séminaire s'appelle gouverné par les normes, mais c'est sous-entendu, j'imagine, les normes juridiques. Ah bon? Alors, donc, je suis tout à fait à l'aise, puisque justement, Hayek a une conception plus large, hein, des normes. Pour lui, si vous voulez, les animaux obéissent à des normes. Hein, et bien plus, et les hommes ont obéi à des normes bien avant qu'existe le droit, au sens propre du terme. Puisque vous savez que le code de Hammurabi, qui est le code le plus ancien de droit que l'on connaisse, c'est en réalité non pas un code de droit, mais c'est un recueil de jurisprudence en fait. Hein. C'est le recueil des cas où le roi s'est permis de s'écarter des normes, justement. Hein. C'est-à-dire une histoire tout à fait passionnante. On est vers 2000 avant Jésus-Christ, 1740, je crois, Hammurabi, roi du Proche-Orient. Et on est peu de temps, au fond, après la création de l'État. Et l'État permet une sanction de la délinquance très efficace. Et par conséquent, aussitôt que l'État apparaît, la division du travail social se complexifie et la société devient plus productive et plus riche. Mais par le fait même, vous avez des réalités sociales nouvelles qui apparaissent et qui ne peuvent pas être et ces difficultés ne peuvent pas être réglées avec les vieilles coutumes. Je vous donne un exemple justement qui est pris dans le code de Hammurabi. Vous aviez une coutume qui était que celui qui ne peut pas rembourser sa dette est réduit en esclavage. Et un des jugements du roi Hammurabi, c'est qu'il ne sera réduit en esclavage que pour 3 ans. Pourquoi? Parce que le développement de l'État multiplie les cas d'échanges monétaires et par conséquent multiplie les cas de non-remboursement de dette. Et donc la signification réelle du non-remboursement de dette n'est pas une sorte d'incapacité structurelle à travailler, mais c'est un aléa du marché, si vous voulez. Par conséquent, Hammurabi a jugé que ça devait être sanctionné non pas par l'esclavage à vie, mais par l'esclavage pour 3 ans. Dans cette société encore très religieuse, le simple fait de s'écarter d'une coutume, les coutumes étant censées être décidées par les dieux, est tellement énorme que Hammurabi ne le fait qu'au compte-gouttes, et en plus en prétendant qu'il en a reçu l'ordre du dieu directement. Je ne sais pas si vous avez vu la stèle d'Hammurabi au Louvre. Le roi est représenté comme étant assis sur les genoux, en fait, du dieu Marduk. Hein. Alors tout ça pour dire que le que et ce, et ce, et donc les règles que le roi se permet de changer, sont écrites noir sur blanc, enfin plus exactement sur noir, puisque la stèle est noire, hein, en creux sur du noir, et apparaît ce qu'on appelle le droit. Mais justement, ce droit n'apparaît que pour compléter, pour réparer des lacunes du système de normes, ce qui est bien la preuve que le système de normes existait déjà. Il pouvait exister d'ailleurs de façon, donc, mais il n'existait pas de façon écrite. Il pouvait aussi d'ailleurs ne même pas exister de façon verbale, mais de façon simplement, oui, coutumière, au sens d'un comportement que l'on imite, mais que l'on n'a même pas exprimé en mots. Alors, c'est pour ça que la théorie de Hayekienne des normes couvre un spectre extrêmement large qui va depuis les instincts animaux jusque aux décrets qui paraissent au journal officiel tous les jours. Voilà, alors, étant averti donc de cette largeur du spectre, je peux vous donner disons, un peu la pointe de la théorie. J'en ai fini, j'en ai besoin encore de 5 minutes. Il y a un texte tout à fait remarquable de Hayek qui date de 1967 et qui a été repris dans le recueil qui s'appelle Studies in Philosophy, Politics and Economics. Vous savez que Hayek a écrit des grandes synthèses, enfin des grandes œuvres. Hayek a fait de ses recherches dans les différents champs que j'ai évoqués en commençant, et ses recherches spécialisées dans certains champs ont pris la forme d'articles de recherche. Et puis de temps en temps, il a éprouvé le besoin de faire une synthèse. Alors il y a 3 grandes synthèses qui sont la route de la servitude, la constitution de la liberté et ce livre qui s'appelle Droit, législation et liberté. Mais il y a tous les articles. Alors Hayek a rassemblé ces articles dans des recueils. Et ces recueils sont des chefs-d'œuvre absolus. Hein. Si vous voulez lire des choses suprêmement intelligentes, il faut lire ça. Hein. Et je vous le signale, lisez-le en anglais. Hein, parce que l'anglais de Hayek ne présente aucune difficulté. Mais ce qui présente une difficulté, c'est que le traducteur risque de ne pas comprendre ce que veut dire Hayek. Alors à ce moment-là, même s'il parle couramment anglais, il va mal le traduire, parce que le problème, c'est pas de traduire l'anglais, c'est de traduire le raisonnement. Hein. Alors, pour éviter tout risque, lisez-le en anglais. Alors, cet article auquel j'ai fait allusion s'appelle, il a un nom à rallonge, hein, Notes on the Evolution of Systems of Rules of Conduct. Notes sur l'évolution des systèmes de règles de conduite. Et c'est là que, enfin, c'est un article séminal, comme on dit, hein, où vous avez une théorie qui est posée et que je vous résume rapidement. D'abord, l'idée, c'est que tout système de règles est le résultat d'une évolution. Alors, vous allez dire, mais comment? Mais on peut très bien, un législateur peut créer un système de règles. Mais justement, s'il le fait au sens radical du terme, ça ne marchera pas, parce qu'aucun esprit humain ne peut dominer la complexité sociale. Donc, la production de normes de droit est forcément, doit être une production prudentielle, qui doit toujours porter sur une partie du droit, et si possible, n'intervenir dans le droit que parce que s'est révélé dans le contentieux une lacune. Là, par exemple, on a créé il y a une nouvelle réalité technologique et une règle ancienne ne peut plus s'appliquer. Bon, à ce moment-là, il faut bien faire une règle nouvelle pour que justement l'ordre ancien puisse continuer à exister. Donc, si vous voulez, la grande idée de Hayek, c'est que l'évolution du droit est par nature conservatrice. Hein, il y a plein de choses qui menacent le droit, qui font que des règles ne peuvent plus être appliquées. Donc, on doit changer le droit pour que le système d'interaction, lui, puisse se poursuivre. Mais en tout cas, dans ce cas précis, vous avez quand même un législateur ou un fonctionnaire ou un ministre qui crée une norme légale ou réglementaire. Mais si vous prenez les grandes règles sociales, elles sont bien plus anciennes, justement, que cette période actuelle où on a l'idée venue de votre ami Rousseau que l'on peut créer par la simple volonté un système de droit. Donc, en fait, dans tout le passé, mais jusqu'à aujourd'hui compris, les règles de droit ont évolué et elles ont évolué quand bien même elles auraient été faites par les hommes. Car j'ai plus le temps de vous en parler, on pourra peut-être le faire dans les discussions, mais Hayek pense que l'ordre social est un ordre spontané, ce qui ne veut pas dire un ordre automatique, mais un ordre fait par les hommes, par l'intervention des hommes, mais d'une manière telle qu'aucun de ces hommes qui vont intervenir dans l'évolution du système de règles n'a pu avoir en vue l'ensemble du système. Donc c'est ces fameuses structures qui dépendent des actions des hommes, mais non de leurs intentions, hein, selon la formule d'Adam Ferguson. Alors, donc, si vous voulez, d'une manière générale, les normes sont le fruit d'une évolution. Et j'ajoute que Hayek critique Descartes, hein, de façon délibérée, à bien des égards. Parce que justement, Descartes, lui, n'a pas eu le sens de la complexité. Il a cru que l'on pourrait achever ce que Descartes appelle l'arbre de la philosophie, c'est-à-dire après avoir fait les racines, enfin la racine c'est la métaphysique, et puis le tronc c'est la physique et les mathématiques, et puis les branches, et les sciences sociales, et le droit seraient parmi les branches. Et donc Descartes a cru que l'on pouvait expliquer tout le social de façon claire et distincte. Alors Hayek le lui reproche, puisque lui il soutient au contraire que le social est complexe. Mais il reproche aussi un autre aspect de la pensée de Descartes, c'est que Descartes, pour pouvoir poser qu'une fois que la science est achevée, on pourra changer la société, est obligé de considérer que la pensée est extérieure à la société. Et il le fait de façon métaphysique en disant qu'il y a une substance pensante et une substance étendue. Et Hayek critique fondamentalement, sur le plan métaphysique, ce dualisme cartésien, qui est une variante du dualisme platonicien, parce qu'il pense, lui, que l'esprit et la société ont coévolué. L'esprit n'existe pas à part de la société, de telle sorte qu'il pourrait forger la société en imposant à la société certaines formes, mais l'esprit lui-même est un produit social. Et l'évolution de l'esprit reflète une évolution sociale, mais inversement, l'évolution sociale prend une certaine direction en fonction de ce que l'esprit, en fonction des interventions humaines qui sont gouvernées par l'esprit. Donc il y a une coévolution, ou pour parler encore, employer un terme de la théorie des systèmes, une causalité circulaire, si vous voulez. L'esprit est cause de la société, qui est cause de l'esprit, qui est cause de la société, qui est cause de l'esprit. Et en ce sens, évidemment, comme l'esprit est plein de normes, vous allez voir lesquelles, hein, Hayek va jusqu'à dire que l'esprit n'est pas plein de normes, comme si l'esprit était, comme si les normes venaient se mettre dans l'esprit, ou comme si l'esprit préexistait comme une boîte, si vous voulez, et puis on le remplirait de normes. Mais Hayek dit que l'esprit n'est pas plein de normes, mais fait de normes, fait de règles. Alors, l'origine biologique la plus ancienne, on peut la penser en termes darwiniens, c'est une adaptation et une sélection due à des essais et des erreurs. Et d'une manière générale, l'organisme apprend à retenir ce qui va être, les types de comportements qui se révèlent négatifs pour sa survie. Et l'évolution biologique, finalement, apprend à chaque espèce les comportements à éviter pour ne pas mourir, en quelque sorte. Alors, j'ai pas le temps de. Mais on fera dans la discussion si ça vous intéresse, parce qu'il y a toute une grande réflexion de Hayek sur les grenouilles, qu'il n'avait pas étudié lui-même au laboratoire, mais il avait lu beaucoup de choses qui avaient été faites sur la perception des grenouilles. Et si vous voulez, en tout cas, c'est la sélection darwinienne qui explique les instincts des animaux. En général, là, par exemple, je vais quand même dire un mot de la grenouille. La grenouille est un cerveau extrêmement fruste, mais en même temps très abstrait. On parlera de ça aussi, si vous voulez, dans la discussion. La grenouille ne voit que deux types d'objets. Si vous agitez ce verre devant une grenouille, elle ne fera rien. Hein. Mais par contre, si vous faites un geste brutal dans sa direction, elle fuira. Et si par contre une mouche passe, elle apprend la mouche. Alors, Donc, elle a une sorte de perception extrêmement simple. Elle ne distingue que deux types d'objets. Des gros objets s'approchant, et à ce moment-là, il faut les fuir, ou des petits objets volants, et à ce moment-là, il faut les manger, même si ce n'est pas des mouches. Alors, c'est pour ça que ce serait, si on fait voler des mini-drones, elle les mangera quand même, et elle en mourra. Hein, mais bon. Retenez de cela, j'ai pas le temps d'en dire plus, retenez de cela l'évolution biologique apprend à chaque espèce les comportements à éviter, hein, les comportements qui se traduiraient par la mort. Hein. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est pas l'ensemble des normes humaines, c'est celle des normes qui concernent nos relations avec d'autres êtres humains. Hein. Les règles. Celle de nos actions qui affecte autrui, pour parler comme Aristote. Vous savez qu'Aristote décrit les excès humains, et donc vertu et vice, et il y en a quatre vertus cardinales qui sont la prudence, la justice, la tempérance et la force. Et alors que la prudence, la tempérance et la force comportent des règles qui régulent nos rapports avec nous-mêmes, la justice, c'est l'ensemble des règles qui régulent nos rapports avec autrui. Donc, c'est très, très important de bien comprendre cette distinction, parce que je vous ai dit qu'on distinguait les normes des normes pré-juridiques avec les normes juridiques, mais tout ça a en commun d'être des règles de justice, hein, qui concernent nos rapports avec autrui. Mais la notion de norme est encore plus large, puisqu'elle implique aussi des règles qui concernent nos rapports avec nous-mêmes, avec notre propre corps. Mais cela, je l'exclus de l'exposer. Donc j'en viens aux seules règles, aux seules normes, aux seules règles du comportement social, c'est-à-dire celles qui commandent les rapports d'un individu avec le groupe auquel il appartient. Et Hayek, dans ce texte, traite simultanément du cas de groupes animaux et du cas de groupe humain, étant entendu qu'il va y avoir certaines analogies et certaines différences. Alors je vous résume en quelques mots, et puis j'arrête là. L'idée, c'est que, je vais référer à mon livre pour ne pas perdre de temps, en fait, hein, parce que si j'en oublie un, après, oui. C'est la première idée, c'est que c'est l'efficience du groupe en tant que tel qui est le critère pertinent de l'évolution. Parce que l'évolution est une sélection, et l'erreur des sociobiologistes comme Edgar Wilson, critiqué explicitement par Hayek, de s'intéresser à la sélection des individus, et en disant que les individus les plus forts, les plus méchants, etc., survivent mieux que les faibles et les chrétiens, disons. Hein. Et c'est une erreur pour Hayek, parce que ce qui compte, c'est le groupe et non pas l'individu, et ceci pour une raison objective, qui est que le groupe est indispensable à l'individu, alors qu'aucun individu n'est indispensable au groupe. Donc, si vous avez un type de comportement qui répété de façon stéréotypée très souvent et par un très grand nombre de membres du groupe, améliore la performance collective du groupe. Vous allez pouvoir avoir un groupe qui a un certain corps de règles à un certain moment, et puis un individu, pour quelque raison que ce soit, adopte un comportement différent. Si ce comportement différent est imité et que la performance du groupe en est améliorée, ce comportement sera conservé. Au contraire, parce que le groupe prospérera, si vous voulez. Et au contraire, si quelqu'un adopte un comportement diminue la performance collective du groupe, le groupe sera affecté et par conséquent, le groupe disparaîtra et le comportement fautif avec lui. J'ajoute aussi que il peut très bien se faire qu'un comportement soit favorable à l'individu et défavorable au groupe. Par exemple, le vol, hein, ou le, je sais pas moi, le. Bon. Mais malheureusement aussi, c'est là où il faut être. On regrette d'être un individu. Il peut y avoir des comportements très défavorables à l'individu et très bénéfiques pour le groupe. Par exemple, le courage à la guerre. Et donc, mais si le courage à la guerre favorise le groupe qui va adopter ce comportement, il est très probable que ce comportement deviendra normatif, sera encouragé, sera même imposé. La deuxième idée, c'est qu'une règle n'est pas... Il y a quatre idées. La deuxième idée, c'est qu'une règle n'est pas intrinsèquement utile, mais que son utilité est relative à l'ensemble des règles existantes et à l'environnement du système. Alors, donc je répète, hein, une règle n'est pas intrinsèquement utile, son utilité est relative à l'ensemble des règles existantes et à l'environnement du système. Un certain type de comportement peut se révéler utile au groupe s'il s'accorde bien avec les autres comportements du groupe. Et par exemple, vous pouvez avoir une même règle qui va être bonne dans un groupe et très mauvaise dans un autre. Et par ailleurs, ça dépend aussi de l'environnement. Car il y a un certain environnement qui justifie un certain comportement et qui fait que ce comportement sera bénéfique dans cet environnement, mais il pourrait très bien se faire qu'une règle bonne dans un certain environnement soit mauvaise dans un autre environnement. Par ailleurs, un changement de règle peut rendre le système capable de vivre dans un autre environnement, ou un changement d'une règle peut rendre bénéfique d'autres changements dans d'autres règles qui auparavant auraient été néfastes. Alors, par exemple, des changements culturels peuvent faire que des mutations biologiques défavorables deviennent bénéfiques. Il y a plusieurs personnes ici qui portent des lunettes, mais l'invention des lunettes, il est bien connu qu'il y a une interaction entre l'évolution culturelle et l'évolution biologique. À la limite, les gens qui portent des lunettes ne pourraient pas voir leur partenaire sexuel et par conséquent, ils n'auraient pas de descendance. À partir du moment où la culture a inventé les lunettes, elle a permis aux gens qui ont une mauvaise vue de se reproduire. Hein. Alors du coup, voilà comment la culture rétroagit sur la nature. C'est un autre sujet. Troisième idée, je vais vite, l'individu n'a pas besoin de comprendre comment fonctionne le groupe, mais je porte des lunettes, c'est pour ça que je ne les ai pas mises. L'individu n'a pas besoin de comprendre comment fonctionne le groupe pour contribuer à le faire fonctionner. C'est ça la troisième idée. L'individu n'a pas besoin de comprendre comment fonctionne le groupe pour contribuer à le faire fonctionner. Si vous voulez, un individu ne disposera pas en général à lui seul de tous les éléments d'information nécessaires pour qu'il puisse juger adéquatement du modus operandi de son comportement. En réalité, un individu va adopter un certain comportement parce que il a un intérêt personnel à le faire. Que ce comportement aboutisse à améliorer la performance du groupe ou à diminuer la performance du groupe, non seulement il n'en a rien à faire, mais il ne peut même pas le savoir. Voilà, ça c'est pour dire que les normes en général ne peuvent pas, il ne peut jamais y avoir un rapport de rationalité finalisée avec une norme. On n'applique jamais une norme parce qu'on pense qu'elle va produire des bons résultats. On applique toujours une norme dans tous les groupes humains parce que c'est la norme, parce qu'il le faut. Parce que, pour parler comme Kant, c'est un impératif catégorique. Ce qui est vrai, c'est que chaque individu va essayer de maximiser son intérêt, mais il va le faire en observant certaines normes. Mais il ne va jamais dire « j'observe la norme parce que si je ne l'observais pas, la société tomberait en l'air hein. ». Et il a été élevé de telle sorte qu'il perçoit comme horrible, comme dangereux, comme à éviter de s'écarter de la norme. Mais il n'en a pas une perception déterminée sur le plan intellectuel. Et la dernière idée, c'est que les règles bénéfiques sont fixées par causalité circulaire ou bouclage auto-organisationnel. Cette notion de bouclage est une notion qui vient de la théorie des systèmes. De la théorie des systèmes auto-organisés, on dit qu'un système est bouclé quand les choses qui sont faites au niveau local produisent un certain état global qui lui-même incite les individus à se comporter de telle ou telle façon. Et si si la boucle tourne plus d'une fois, si vous voulez, on a un système qui a une certaine stabilité. Alors, les trois idées précédentes vous ont expliqué comment une règle peut être bénéfique, elle est bénéfique si elle profite au groupe et nonobstant le fait que l'individu qui l'adopte ne le sait pas. Bon. Mais on n'a pas encore expliqué pourquoi une règle bénéfique va être conservée, et conservée sous la forme précisément de normes culturelles au sein du groupe, hein, que ce soit une société globale ou que ce soit des groupes professionnels. Et la raison, c'est que, enfin la réponse de principe, c'est que l'individu ne pouvant vivre et se reproduire que dans la mesure où son groupe est efficient dans son environnement, seule la reproduction des individus ayant un comportement tel qu'ils rendent leur groupe efficient sera favorisée par l'évolution. Je répète, le comportement que j'adopte se révèle efficace pour le groupe, le groupe va subsister. Donc moi-même, je vais subsister. Et je continuerai à pratiquer ce comportement. Et par ailleurs, les nouveaux individus qui vont s'agréger à ce groupe, soit par la naissance, soit par l'arrivée de l'étranger, seront incités à se comporter comme tous les membres du groupe. Donc ils vont adopter ce comportement. À leur tour, ils auront des enfants, etc. Et le comportement se perpétuera. Il se perpétuera. Si maintenant le comportement provoque une moindre performance collective du groupe, ce groupe ou bien s'éteindra purement et simplement, ou bien il sera dominé par d'autres groupes. Et en ce qui concerne l'évolution culturelle, vous savez que l'évolution culturelle, enfin que les normes culturelles ne sont pas engrammées dans le patrimoine génétique. Elles flottent quelque part dans l'air. Hein. Et vous savez que les bébés sont des cerveaux, enfin le patrimoine génétique programme le bébé le programme génétique fabrique plein de neurones. Je me réfère modestement aux exposés de Changeux, hein, je crois que c'est toujours la doctrine dominante. Et ensuite, ce très grand nombre de neurones et de liaisons entre les neurones, parce que c'est à l'âge du fœtus de 6 mois que le nombre de neurones est maximum dans l'évolution humaine. Et ensuite, quand le bébé naît et quand l'enfant grandit, l'âge adulte, la maturité, si vous voulez, est atteinte. Enfin, quand la maturité est atteinte, le nombre de neurones a diminué. Donc ce qui s'est passé, c'est que la culture extérieure a sculpté, en quelque sorte, hein, dans le cerveau, un certain type de liaison, un petit peu comme un sculpteur sculpte un bloc de marbre. Et certains circuits neuroniques ont été utilisés et donc sont restés, alors que d'autres n'ont pas été utilisés et ont disparu. Donc l'idée, c'est que les structures culturelles sont extérieures au cerveau et ne font pas partie du code génétique. Alors, du coup, ça a une conséquence extrêmement importante, c'est que on peut très bien changer, quand un nouveau comportement survient, il n'est pas nécessaire d'attendre une sélection naturelle pour que ce comportement soit possédé par les cerveaux. Il peut être imité instantanément par les enfants qui naissent ou par les étrangers qui arrivent. L'homme a une capacité d'imitation. Bien, alors du coup, vous avez une explication de principe qui vous explique comment les normes à la fois apparaissent, enfin plutôt comment les normes, oui, la question de savoir comment elles apparaissent est encore une autre question. Et je souhaite qu'on en parle dans la discussion, parce que Hayek n'est pas très clair là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a des individus qui choisissent de se comporter différemment, hein? Hayek donne un exemple extrêmement trivial. Vous savez, Hayek, c'est un très grand esprit, vous savez le bien que j'en pense, je l'ai déjà dit, mais il a aussi des points aveugles, comme tous les grands esprits. Et alors, il a un antichristianisme absolument injustifié, enfin, qui n'a jamais lui-même argumenté, qui est dû probablement à une histoire familiale un peu compliquée, et il a certains blocages. Alors, par exemple, il dit, un beau jour, un homme d'une tribu, parce qu'au sein des tribus, il n'y a pas de commerce, évidemment, hein, le travail est entièrement coordonné au sein du petit groupe. Et quand même, un jour, un homme d'une tribu a eu l'idée de déposer à la frontière du territoire de la tribu un certain objet, avec l'idée que peut-être un homme d'une autre tribu serait intéressé par cet objet et lui donnerait quelque chose en échange. Voilà. Alors, effectivement, un homme de l'autre tribu... le type est revenu le lendemain, et puis il a vu que l'objet qu'il avait mis avait disparu, et qu'il y en avait un autre qui était précisément celui qu'il voulait. Ah, ben c'est formidable, hein. Alors du coup, il a recommencé le lendemain, hein. Alors du coup, voilà un premier comportement commercial qui se révélant bénéfique, puisqu'évidemment, arrive dans la tribu des choses qu'il n'y avait pas avant, tout le monde est très excité, tout le monde veut faire pareil. Bien. Mais Hayek n'explique pas quelle drôle d'idée a eu le type qui a fait ça la première fois. Donc il n'y a pas de théorie chez Hayek de la création artistique ou morale. Il n'y a pas de place pour lui pour expliquer Jésus ou Mahomet. Hein. Et si Jésus ou Mahomet proposent des normes, Hayek peut expliquer comment elles seront reçues ou pas par le groupe. Si ça rend le groupe plus performant, etc. Mais il ne peut pas expliquer pourquoi Jésus prononce le sermon sur la montagne. Donc ça sera peut-être un élément de discussion. Et alors, je ne vais pas plus loin parce que j'ai dépassé mon temps, mais vous avez ce principe fondamental donc de l'origine évolutionnaire des normes et qui s'applique, je le répète, aux instincts animaux. Hayek s'est intéressé à la construction des termitières par les termites, je vous donnerai les détails si vous voulez, ou pourquoi est-ce que les canards sauvages se mettent en V, ou pourquoi les buffles se mettent en rond. Enfin, il y a des comportements sociaux, hein, chez les animaux et qui s'expliquent parce que chaque animal obéit à une certaine norme. Alors je vous dirai pour la termitière, hein, c'est une norme extrêmement bête et extrêmement fruste qui consiste à aller là où ça sent bon. Enfin, ça sent bon pour les termites, parce que je suppose que c'est... Et alors, la norme consiste à se charger de choses sur son dos et d'aller vers l'endroit où ça sent. Hein. Bon, alors après, il faut ajouter des choses pour expliquer, mais c'est comme ça qu'on se construit des termitières. Donc, vous avez un cas d'animaux obéissant à des normes et ça produit un effet macro-social, en l'occurrence bénéfique, la construction des termitières. Alors, les hommes, c'est un petit peu des animaux. Donc, ils sortent. Hayek, de ce point de vue-là, est tout à fait darwinien. Il pense que l'homme est différent des animaux, mais que cette différence a été acquise par une série de mutations. Hein. Et vous avez une base animale. Donc il dit que les sociétés humaines, avant qu'il y ait le droit, proprement dit, hein, obéissaient à des normes. Donc, les sociétés tribales, pour le peu qu'on les connaisse, sont au contraire des sociétés extrêmement normées, avec des normes extrêmement rigides. Mais il dit inversement... qu'on peut parler, presque sans métaphore, de règles de droit parmi les animaux. Je vous donne un exemple. vous avez vous savez que les animaux, les oiseaux chantent. Et alors pourquoi est-ce qu'ils chantent? Parce qu'ils vivent dans les arbres, et dans les arbres, on ne se voit pas. Alors quand il y a un rouge-gorge qui est installé dans un arbre, il chante sa petite chanson, et l'autre rouge-gorge qui arrive sait que l'arbre est occupé, et que le territoire est occupé. Et les éthologues ont observé que les rouges-gorges ne se battent pas, ou alors c'est très exceptionnel. Et donc ils renoncent à s'installer dans ce territoire parce que c'est la règle. Donc ils observent une règle de droit, si vous voulez. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est très éclairant pour l'esprit de dire que les hommes ont des comportements de type animal, de type instinctif, mais inversement que les animaux ont des comportements que l'on peut décrire comme des comportements de droit. Bien, et puis, j'en termine là-dessus, vous avez cette fameuse formule de Hayek qui est que le droit est plus ancien que la législation, parce qu'il s'est produit une longue période de l'évolution culturelle humaine avant que l'on ose délibérément changer le droit. Bon, j'arrête là parce que je vous ai dit l'essentiel pour avoir une discussion fructueuse.
Merci pour votre exposé. Je propose justement d'aller directement dans la discussion. Et donc,